qu'il y a parmi vous des amateurs de films à suspense, où on attend la fin avec impatience. Ouais, quand même. Merci. Il y a quelques personnes avec moi ce matin. Les autres soit n'aiment pas les films à suspense, soit dorment. Donc bon, essayez de les réveiller. Ce matin, nous terminons notre parcours d'un livre à suspense, le livre des Actes. Si vous nous rejoignez ce matin, on parcourt ce livre depuis plusieurs mois maintenant. Et on essaye de se laisser enseigner sur la mission de l'Église à travers ce livre. Et nous sommes arrêtés dimanche dernier, on arrive donc à la fin ce matin. On s'est arrêté dimanche dernier au moment de l'arrestation de Paul à Jérusalem. Et en fait, vous me dites, ben, normalement, on en était au chapitre 22, on n'en est pas vraiment à la fin. Alors voilà, le mois de juillet arrive, je pense qu'il est bien de clore cette série. On va donc sauter les chapitres 22 à 27, pas parce qu'ils seraient inintéressants ou qu'ils n'auraient rien à nous dire. Ils sont consacrés à l'arrestation de Paul, à ses procès. Ils nous permettent d'entendre le témoignage de Paul. Vous savez que le témoignage de Paul est répété par trois fois dans le livre des Actes, et notamment deux fois à travers les procès. Mais ce qui nous intéresse à travers ces passages, c'est le fait que ces chapitres amènent Paul à en appeler à l'empereur et vont finalement le conduire jusqu'à Rome. Et vous savez d'ailleurs que ce transport ne se fera pas non plus sans mal. C'est le fameux épisode du chapitre 27 où le navire manque de peu de faire naufrage. Mais Luc le souligne, Dieu lui-même voulait que Paul aille à Jérusalem. On a plusieurs fois dans ces chapitres Paul qui est encouragé par une apparition du Seigneur qui vient lui dire « Fortifie-toi, tu dois comparaître devant César. Fortifie-toi, tu dois aller à Rome. » Alors forcément, quand s'ouvre le chapitre 28, un peu comme dans un film à suspense, notre attente est à son comble. Comment ce livre plein de rebondissements, que l'on a souligné tout au long de notre parcours, va-t-il se terminer ? Est-ce que ça va être comme un bon roman d'aventure avec une fin en apothéose ? Un procès à sensation qui finit par innocenter Paul ? Une percée de l'Évangile qui annonce un réveil dans tout l'Empire romain ? Plus encore, la conversion de Néron, l'empereur terrible de l'époque. Ça, ce serait une fin à la hauteur du livre des Actes. Alors écoutez plutôt comment se termine le livre des Actes et je vous invite à prendre vos Bibles. Dans le chapitre 28, nous allons lire les versets 11 à 31 et donc le texte vous sera projeté. C'est seulement trois mois plus tard que nous sommes repartis à bord d'un bateau d'Alexandrie à l'emblème de Castor et Pollux. Donc c'est après le naufrage de Paul et de tous les prisonniers sur l'île de Malte. À l'emblème de Castor et Pollux qui avait passé l'hiver dans un port de l'île. Nous avons fait escale pendant trois jours à Syracuse. De là, nous avons longé jusqu'à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en deux jours, nous avons gagné Puzzole. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer une semaine avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius et aux Trois Tavernes. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger dans un logement personnel, dans un appartement personnel sous la garde d'un soldat. Au bout de trois jours, il invita les chefs des Juifs à le rencontrer. Quand ils furent réunis chez lui, il leur dit « Mes frères, bien que je n'ai rien fait de contraire aux intérêts de notre peuple ni aux traditions de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Ceux-ci, après enquête, voulaient me relâcher parce qu'ils n'avaient trouvé aucune raison de me condamner à mort. Mais comme les Juifs s'y opposaient, je me suis vu contraint d'en appeler à l'empereur, sans pour autant vouloir accuser mes compatriotes. Et c'est ce qui explique que je vous ai invité à venir me voir et vous entretenir avec moi, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Les Juifs lui répondirent, « En ce qui nous concerne, nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet. Et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi. Mais nous pensons devoir t'entendre exposer toi-même ta pensée. Quant à la secte dont tu fais partie, nous savons qu'elle rencontre partout une sérieuse opposition. Ils fixèrent donc un autre rendez-vous et au jour convenu revinrent chez lui, encore plus nombreux que la première fois. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Paul leur exposa sa doctrine. Il leur annonça le règne de Dieu et en s'appuyant sur la loi de Moïse et les paroles des prophètes, il cherchait à les convaincre au sujet de Jésus. Les uns se laissèrent persuader par ces paroles, mais les autres refusèrent de croire. Au moment de quitter Paul, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux et Paul fit cette réflexion. Elles sont bien vraies, ces paroles que le Saint-Esprit a dites à vos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe. « Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils se tournent vers moi et que je ne les guérisse. » Et Paul ajouta, « Sachez donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens. Eux, ils écouteront ce message. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, la lecture de la parole. Quelle fin étrange, décevante, j'aurais envie de dire. On a vu il y a quelques années avec Christelle un film qui retraçait le livre des Actes, et je me demandais bien comment le scénariste allait gérer la fin. Il avait tout au long du récit usé, abusé un peu de l'aventure qui est dans le livre des Actes, même si c'était intéressant à observer, à regarder. Mais je pense qu'il ne savait vraiment pas quoi faire de la fin. Le film se termine en montrant un plan sur Paul, un plan sur Rome et écran noir. Débrouillez-vous avec ça. Comme si c'était la fin de l'aventure. Il ne parle pas du tout de ce qui s'est passé là, hein. Le film se terminait avec un goût d'inachevé. Et honnêtement, c'est peut-être aussi votre réflexion à l'écoute de ce récit. En tout cas, ça a été la mienne, moi, pendant des années, hein. J'ai découvert le livre des Actes alors que j'étais tout jeune chrétien, et ce n'est pas un des livres que je trouve on met facilement en avant dans la foi chrétienne. Et j'y trouvais plein de facettes vraiment enthousiasmantes de la foi, de l'Église, de la mission. Mais la fin, franchement, la fin, elle pourrait être mieux, non? Que faut-il comprendre de ce dernier chapitre? Pourquoi ça se finit comme ça? C'est ce que je vous propose de méditer ce matin, en gardant bien sûr en toile de fond ce qui nous a animé tout au long de notre parcours, la mission de l'Église. En fait, nous comprenons avec ce chapitre que ce n'est pas tant les aventures de Paul, les actes des apôtres qui se terminent en acte 28, mais bien plutôt les actes que Dieu a préparés d'avance pour ceux qui vont succéder aux apôtres, à l'Église primitive et dont nous faisons partie. Les actes que Dieu a préparés d'avance pour nous. Et on va voir justement comment, quelque part, ce dernier chapitre accomplit les actes que Dieu avait préparés d'avance pour Paul, afin que nous en saisissions, nous, pour entrer dans ces mêmes actes, dans notre contexte et dans notre réalité. Et mon premier point ce matin, c'est en fait de se dire que cette fin, elle n'est pas si ordinaire que ça. Si pour un lecteur de romans d'aventure, cette fin manque de relief, pour un lecteur attentif du livre des Actes, elle contient son lot d'extraordinaire. Parce que Dieu est pleinement présent. Parce que Dieu précède Paul à Rome. Parce que Dieu est à la baguette. Il nous invite il invite Paul à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Quand un dignitaire arrive en visite, vous pensez à une visite d'État, le gouvernement déploie les grands moyens, tapis rouge. Parfois, si c'est vraiment quelqu'un d'important, c'est le Premier ministre ou le Président qui attendent à la descente d'avion. Ici, ce n'est pas un dignitaire qui se rend à Rome. Techniquement, Paul est prisonnier. Il a un chef d'escorte, plusieurs soldats qui semblent l'accompagner. Mais son arrivée est loin de ressembler à celle d'un hors-la-loi. Tout commence à 200 km de Rome, dans notre récit, à Pouzzole. Et des chrétiens l'accueillent, lui et son escorte, pour une pause, tout frais payé, dans une famille chrétienne. Ça a dû quand même paraître assez étonnant pour les soldats et pour le chef d'escorte d'aller comme ça dans une famille chrétienne qui accueillait un prisonnier. On a parlé d'accueil ce matin, là c'est l'accueil aussi inconditionnel. Le prisonnier accueilli dans une famille et qui est prête à dépenser de l'argent pour les soldats qui l'emmènent. Forum d'Appius, un petit peu plus au nord, 70 km de Rome. Il nous est dit que des chrétiens ont entendu parler de Paul. Ils n'ont pas pris la voiture pour venir. Hein. 70 km, 3 jours de marche pour venir à la rencontre de Paul, 3 jours dans l'autre sens pour repartir. Un petit voyage, hein, ça, dans nos plannings bien chargés, là, caser 6 jours pour aller à la rencontre de Paul, ce serait quelque chose, on aurait du mal à les trouver. Rebelote aux Trois Tavernes, on n'est plus qu'à 40 km de Rome, mais à nouveau, des chrétiens se déplacent pour aller à la rencontre du prisonnier. Paul n'est pas un dignitaire, son arrivée à Rome ne fera pas la une de Rome matin, mais son arrivée ne se fait pas en catimini. On a l'impression que c'est Dieu lui-même qui envoie l'escorte pour l'amener jusqu'à Rome avec des frères et sœurs en la foi. Il y a un contraste saisissant hein, entre les chaînes qui sont au bout des poignets de Paul et l'enthousiasme suscité par l'arrivée de ce prisonnier. C'est pas le dimanche des rameaux où Jésus arrive à Jérusalem et où la foule acclame le roi, mais j'aurais envie de dire c'est presque mieux. Parce que ceux qui se sont déplacés ne s'y trompent pas. Ils sont là malgré les chaînes. Ils sont là malgré la faiblesse. Ils sont là malgré la honte de l'emprisonnement, le déshonneur. Ils avaient entendu parler de lui. Ils sont venus à sa rencontre. Et Luc le souligne. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Il a remercié Dieu. Et a pris courage. Pourquoi ? Je ne sais pas si Paul en prend conscience, lui, à ce moment-là, mais pour nous qui suivons pas à pas le livre des Actes, eh bien, c'est l'aboutissement. L'aboutissement de ce qui nous a été annoncé depuis le départ. David en a parlé ce matin. Le livre des Actes commence ainsi. Jésus donne une mission à ses apôtres. Être ses témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est précisément ce qui se passe à ce moment-là. Vous vous rappelez, hein, dans le livre des Actes, tout a commencé à Jérusalem. Une église qui grandit. Et qu'est-ce qui se passe ? Persécution. L'église, obligée de se disperser, mais au lieu d'étouffer le message de l'évangile, l'évangile va plus loin. En Samarie, à Antioche de Syrie. Et qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de se dire « Ouf, on a trouvé un endroit, c'est un peu plus calme ici. » Non. L'église d'Antioche prend conscience avec ce qui vient de se passer, qu'elle doit elle-même participer à la mission que Dieu leur a donnée. Départ vers Chypre, départ vers l'Asie mineure, Paul est envoyé. À nouveau, des églises naissent. On pourrait se dire « Super, Paul !» Super-héros, celui qui va accomplir toute la mission de Dieu. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Ces églises participent elles-mêmes à cette mission. On le voit dans les collaborateurs de Paul, vous vous en rappelez peut-être. Des gens de toutes ces églises vont venir grossir l'équipe. Une ville comme Éphèse va devenir une plaque tournante qui va évangéliser l'Asie occidentale. Et est-ce que c'est Paul qui amène l'évangile à Rome? Question piège. Vous avez la réponse dans le texte. Des chrétiens sont venus à sa rencontre. C'est pas Paul qui a amené l'évangile à Rome. Paul, il a écrit l'épître aux Romains 5 ans avant ce que nous lisons ce matin. Il y a une église à Rome. L'évangile est arrivé aux extrémités de la terre, mais là, c'est Paul qui, malgré ses chaînes, malgré les embûches, malgré tout ce que les Juifs ont tenté d'empêcher de faire, qui arrive avec la conviction, la joie d'enfin arriver où là où Dieu l'avait envoyé. Mystérieusement, courageusement, avec persévérance, Paul a accompli les actes que Dieu avait préparés d'avance pour lui. Probablement d'une manière différente de ce qu'il avait imaginé. Il s'est imaginé, hein, alors qu'il était à Éphèse, aller à Rome. Je ne pense pas qu'il, à ce moment-là, il imaginait ça après 3 ans de prison et de la manière dont ça s'est passé. Dans notre marche avec Dieu, tout ne se passe pas comme on l'imaginerait. Des chemins prennent plus de temps que prévu. Et puis, il y a des détours douloureux. À première vue, on ne les trouverait pas souhaitables. Et puis, il y a aussi, comme dans notre passage, des projets qui, enfin, aboutissent après ces détours, après ces chemins plus longs. On s'est rappelé il n'y a pas si longtemps la manière dont ce bâtiment a été construit. 2010, l'achat du bâtiment. 2018, l'inauguration. Je ne pense pas que c'est exactement le timing que ceux qui ont démarré le projet avaient en tête à ce moment-là. Nous avons vu la fidélité de Dieu à travers ces moments d'attente. Quand les projets aboutissent, on comprend mieux la valeur des détours. Ils ne sont pas comme une perte de temps, souvent comme notre impatience nous le ferait croire. Ils sont l'assurance que nous n'avons pas suivi nos propres voies, mais celles de Dieu, puisque tout ne s'est pas passé comme on l'aurait imaginé. Ils sont la source d'une joie bien plus profonde, celle d'être resté fidèle à Dieu, au-delà de ce que l'on aurait imaginé ou pensé. Et ils sont enfin un puissant rappel que l'aboutissement de nos projets ne signifie pas « ouf, ça y est, on a fini ». Non, ils sont des étapes sur notre marche avec Dieu pour entrer dans cette mission que Dieu confie à chacun de nous, accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est comme si tout notre parcours était là pour nous aider à nous rendre compte que Dieu nous précède, qu'il a préparé d'avance cela, et que nous n'avons qu'à le suivre. Ok, la fin du livre n'est peut-être pas aussi ordinaire qu'elle y paraît. Cependant, j'ai aussi l'impression, c'est une bonne chose qu'on a l'impression d'une fin un peu sans fin. Luc veut justement nous faire comprendre quelque chose de cette fin qui n'arrive pas en apothéose, mais qui semble presque comme un mouvement perpétuel. Paul arrive à Rome pour être jugé. On s'attend donc à un procès. Vous avez entendu parler d'un procès, vous, dans ce passage? Rien du tout. On ne sait même pas s'il a eu lieu. La seule chose que l'on sait, c'est que il n'y a personne qui s'est déplacé pour accuser Paul. Peut-être que le procès n'a jamais eu lieu, faute d'accusateur. En tout cas, ce n'est pas du tout ça qui intéresse Luc à la fin de notre livre des Actes. Ce n'est pas là-dessus qu'il s'attarde. C'est une autre perspective qui retient son attention. Luc nous décrit la teneur des discussions entre Paul et la communauté juive de Rome. Ça vous rappelle rien, ça ? De quelle manière ça s'est passé à chaque étape des voyages missionnaires de Paul? Qu'est-ce qu'il faisait en premier? Il entrait dans la synagogue pour annoncer l'évangile aux Juifs. Et là, clin d'œil de l'histoire, à la fin, Paul ne peut pas aller dans la synagogue, et donc c'est les Juifs qui viennent à lui, la synagogue vient à Paul. Et on retrouve à nouveau cette discussion avec la communauté juive. C'est intéressant, hein? C'est pas les chrétiens, L'église de Rome existe, mais c'est pas de ça dont parle Luc. Luc nous parle à nouveau de la manière dont Paul a annoncé l'évangile à ses frères juifs. De quelle manière il leur dit « Mais moi, j'ai pas voulu me mettre ennemi du peuple. J'ai même pas voulu, quelque part, leur renvoyer la balle quand ils m'accusaient injustement. » Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, comme tout au long du parcours de Paul à travers les villes d'Europe, d'un côté, certains restent ancrés dans leur tradition, quand d'autres comprennent qu'avec Jésus, Dieu a accompli l'espérance d'Israël. C'est comme si Luc voulait nous laisser avec cette idée que l'évangile va rester cette ligne de frontière tout au long de l'histoire, entre ceux qui croient et ceux qui refusent de croire. Paul écrira dans l'épître aux Galates, il l'a écrit avant ce passage, « Il n'y a désormais ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme. Par contre, il y a bien ceux qui croient en Jésus et ceux qui refusent de croire. » Et l'endurcissement du peuple juif est symbolique, j'ai envie de dire, de cette ligne de démarcation. Et Paul, au détour de la conversation avec la communauté juive qui est venue lui rendre visite, va donc citer le prophète Ésaïe. « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Cette citation d'Ésaïe, elle a plusieurs buts. D'abord, elle rappelle que le rejet par Israël du message de l'Évangile était prévu d'avance par l'ancienne alliance elle-même. Ésaïe, tout le monde y croit dans la salle, au moment où Paul parle. Et c'est une manière de montrer que le rejet de son propre peuple n'est en aucun cas une preuve à charge contre la véracité du message qu'il porte, puisque c'était annoncé d'avance. C'est une manière de dire « Dieu est aux commandes » et rien ne l'empêche d'accomplir sa volonté. Même le rejet de son peuple a permis d'accomplir le grand projet de Dieu. C'est quoi le grand projet de Dieu ? Que toutes les nations croient. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit la semaine dernière, hein ? Avec ou sans nous, Dieu accomplira sa volonté. Et là, c'est parfaitement l'illustration de ça. Autant que ce soit avec nous, ce sera un plus grand avantage pour nous. Mais un autre effet de cette citation d'Ésaïe, c'est un rappel fort que l'annonce de l'Évangile défie nos certitudes humaines. Et je crois qu'on l'a aussi entendu ce matin dans le témoignage de David par rapport à cette personne dont on pense qu'il n'y a aucune raison qu'elle se convertisse. Et je pense qu'on a tous rencontré ça dans nos parcours. Des personnes où on se dirait, mais franchement, pourquoi elle ne se tourne pas vers Dieu ? Elle a tout, les valeurs, elle a cet amour du prochain, mais il y a cette résistance dans son cœur pour donner sa vie à Dieu. Et puis des personnes qui nous semblent à mille lieues de pouvoir donner leur vie au Seigneur. Et les choses ne se passent pas comme nous, on l'imaginerait. Et ce passage, la manière dont l'Évangile a franchi les frontières, a franchi les barrières culturelles, a franchi les barrières du cœur, nous rappelle cela. Il y a un combat, il y a un combat. Je dois m'attendre à du rejet, je dois m'attendre à de l'opposition. Cela signifie qu'il est impossible d'entrer dans cette mission sans vivre un cœur à cœur avec Dieu, sans être connecté avec lui. Parce que la manière dont ça se passe est tellement étranger à la manière dont moi j'imaginerais que ça devrait se passer. C'est pour ça qu'on est si souvent découragé, c'est pour ça qu'on ne persévère pas dans la prière. Il nous faut intégrer cela. Cela fait partie pleinement de la mission. Et ce passage nous le rappelle. Mais je dois me rappeler que cet avertissement n'est pas que pour les autres. Il est aussi pour moi. Ce n'est pas le fait de fréquenter une église évangélique. Ce n'est pas le fait d'être né dans la marmite, comme on dit, d'avoir des parents chrétiens. qui fait de moi un disciple de Jésus-Christ? Ce que je dis là n'est pas dans le but de nous faire douter de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dieu est à l'œuvre. Soyons assurés, c'est bien lui qui agit. Mais je dois veiller sur moi-même pour ne pas tomber là-dedans. C'est bel et bien à un peuple qui voulait honorer Dieu, à sa manière, que ses paroles sont adressées. C'est bien lui qui a été endurci et qui n'a pas reconnu le message de l'Évangile. Et c'est bien un piège dans lequel nous aussi, nous pouvons tomber. Le critère que le verset d'Ésaïe met en avant ici, c'est un cœur sensible à la parole de Dieu. C'est le désir de vouloir écouter Dieu et lui obéir, ne pas se voiler la face sur nous-mêmes, sur notre péché, nous considérer comme en chemin, comme ayant éperdument besoin de guérison dans nos vies. C'est cela le message de l'Évangile. Et pourtant, nous nous comportons bien souvent face à nos difficultés, face à nos défis comme « Allez, je vais m'en sortir, je vais y arriver par moi-même !» Je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi on réagit comme ça? Mais je vous le dis parce que je le vois dans ma propre vie. Cette difficulté à reconnaître que c'est trop lourd pour nous, qu'on a besoin de guérison, qu'on a besoin ensemble de porter les fardeaux. La fin du livre des Actes ne nous livre pas une happy end à la manière humaine, comme on s'y attendrait. Ah, le réveil, l'exaltation d'une personne célèbre qui se tourne vers Dieu. Mais ça ne change rien, les amis, ça. Ce dont on a besoin, c'est de ça. Nos cœurs. Un réveil ne change pas nos cœurs. Dans les réveils, il y a toujours la question de savoir, mais ok, c'est quoi? C'est l'exaltation? C'est l'émotion? Ou c'est notre cœur qui change? C'est de ça dont on a besoin. Et c'est ainsi que finit le livre des Actes. Il nous révèle le véritable objectif de la mission que Dieu nous confie. Reconnaître que le problème, c'est notre cœur. Que c'est lui le véritable défi. Seul celui qui accepte honnêtement de reconnaître que son cœur est le véritable défi peut entrer dans ces actes, dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dernier point ce matin, une fin un peu en suspension donc dans le livre des Actes, tout simplement parce que ce n'est pas la fin de l'histoire en fait. Le but de Luc, ça n'est pas de nous raconter l'histoire de Paul. Bien sûr, il a focalisé et il a montré comment Dieu a préparé d'avance tout ce que Paul allait accomplir. Mais ce n'est pas le but de se centrer sur Paul. Acte 28 n'est pas la fin de l'histoire. Après Acte 28, il y a Acte 29. Il n'est pas dans nos Bibles, mais il existe. D'ailleurs, il est dans la fin d'Acte 28. Qu'est-ce que fait Paul à la fin du passage? Eh bien, il est en train de continuer de faire tout ce qu'il a toujours fait. Il est resté 2 années, et puis il a continué de proclamer le règne de Dieu. Et puis les chaînes ce logement qui était mis à disposition, qui l'empêchait d'aller librement, n'ont pas été un obstacle. Les gens venaient à Paul pour entendre le message. C'est un moment aussi où il en a profité pour écrire plusieurs des épîtres, pour que nous soyons au bénéfice d'enseignements, pour nous approprier l'Évangile. Et puis, le livre des Actes ne nous le dit pas, mais il y a ce qui s'est passé après. On le voit en filigrane dans certaines épîtres. Paul a repris la mission après sa première emprisonnement à Rome. Probablement est retourné à Éphèse, peut-être est-il allé en Espagne, un peu plus loin encore, aux extrémités de la terre. Et à cette époque, on n'en connaissait qu'un bout, ce qui fait que nous, on peut encore écrire Acte 29, des siècles plus tard, parce que la vision du monde s'élargit. Voilà une dernière exhortation pour nous ce matin. Alors que le livre des Actes nous explique comment l'Évangile est passé de la petite capitale de Judée, Jérusalem, petite capitale du monde juif, à la grande ville du monde païen de l'époque, Acte 28 ne signifie pas la fin de l'histoire. À nous d'écrire Acte 29. Et c'est cela la mission que Dieu confie à son Église. Concluons et l'ensemble de notre parcours. On pourrait dire qu'à travers le livre des Actes, Luc nous appelle, en tant qu'Église, à rejoindre Dieu dans la mission qu'il accomplit en faveur du monde. Il nous invite à le faire en tant qu'Église et en tant que personne, répondre chacun à cet appel, accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Le livre des Actes souligne en quelque sorte le fantastique trait d'union entre la souveraineté de Dieu et notre rôle à jouer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a presque ambiguïté dans le titre. On ne sait pas de quoi on parle. Le livre des Actes des apôtres, le livre des Actes du Saint-Esprit, les deux mélangés. C'est ça le but de ce livre, de montrer de quelle manière les apôtres ont prolongé la mission entamée par Jésus-Christ, ont accompli la mission que le Saint-Esprit leur confiait. Si nous avons accepté l'Évangile en lisant le livre des Actes, nous devrions arriver à la conclusion que nous sommes appelés à toujours plus saisir ce que Dieu veut faire. Et on voit que ce n'est pas si simple que ça. Il y a plein de fois où ça défie notre entendement. On l'a souligné à chaque fois en se disant « Mais c'est bizarre ce que est en train de faire le Saint-Esprit, là. » Et je ne peux pas servir Dieu si je ne cherche pas à mieux comprendre ce que Dieu est en train de faire. La Bible est un endroit merveilleux où je peux le comprendre objectivement. Et chaque étape de ma vie est un autre endroit merveilleux où je suis appelé à revoir ce que Dieu est en train de faire. Si nous avons accepté l'Évangile, nous devrions aussi lutter contre cette fâcheuse tendance à nous insensibiliser à la puissance de l'Évangile. C'est comme si, au fil de notre vie chrétienne, le message devenait de moins en moins puissant pour changer les vies. On fonctionne malheureusement un peu comme ça, comme si on s'y habituait. Le livre des Actes nous appelle à ne pas nous assoupir et à vivre chaque étape de cette vie comme une expérience renouvelante de l'action de Dieu. Si nous avons accepté l'Évangile, nous devrions enfin nous demander comment il veut nous utiliser chacun et en tant qu'Église pour entrer dans ces fameuses œuvres préparées d'avance. C'est un défi pour nos sociétés. C'est un défi pour nous. C'est un défi pour nos agendas qui semblent toujours avoir à faire mieux, avoir plus important à faire qu'écrire Acte 29. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire dans notre vie aujourd'hui? Et sinon, est-ce que c'est un défi que nous voulons demander à Dieu de nous aider à relever? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.